C'est l'heure du journal présenté par Rosalie Lafarge. Bonsoir Rosalie.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous. La rue dit pression, le gouvernement répond concertation. Alors que la mobilisation se poursuit contre la réforme des retraites, l'exécutif tente de déminer le terrain, sans convaincre pour l'instant. Ils sont policiers et CRS et ils ont reçu chez eux des courriers anonymes de menaces. Les syndicats alertent le ministre de l'Intérieur. Dans ce journal, nous serons avec les manifestants très nombreux ce soir à Alger. Et nous ferons aussi le point sur la situation en Iran, où la répression du mouvement de contestation est extrêmement dure, selon l'ONU. Et puis, l'Union européenne peut-elle faire avancer la négociation mondiale sur le climat? En pleine COP25 à Madrid, l'espoir mince repose visiblement sur les épaules des Européens. Et ce sera le dossier de cette édition. Le compromis, voilà ce que recherche le gouvernement en ce moment. Un compromis entre le respect des régimes spéciaux et les décisions à prendre pour mener à bien sa réforme des retraites. Elle est essentielle, cette réforme, a déjà répété le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye tout à l'heure. Et elle se fera, a poursuivi le Premier ministre cet après-midi, Édouard Philippe.
Aux salariés des entreprises publiques de transport, je le dis tranquillement, la mise en place d'un système universel de retraite implique la disparition des régimes spéciaux. Je ne crois pas que les Français puissent durablement accepter des régimes qui conduisent aujourd'hui certains à partir, alors qu'ils font le même métier, avec un peu plus et beaucoup plus tôt que d'autres. Je dis également à tous les personnels de la RATP et de la SNCF et à tous les Français qu'il ne serait pas raisonnable de changer les règles en cours de partie. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué ma disposition totale pour faire en sorte que les transitions soient progressives, afin de ne pas être brutales. Et je suis persuadé qu'avec les organisations syndicales, nous trouverons le bon point d'équilibre qui permettra à la fois de rassurer les personnels sur leur avenir, sans renoncer à la volonté très ferme qui est la nôtre de projeter le pays dans le futur et de mettre en place ce système universel.
Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir.
Le gouvernement fait du en même temps et oscille entre signes de fermeté et gestes d'apaisement.
Oui, le Premier ministre a d'un côté rappelé la détermination du gouvernement, vous venez de l'entendre, la volonté très ferme qui est la nôtre, et il a déroulé les arguments qu'on entend régulièrement depuis quelques jours dans la bouche de ses ministres. Cette réforme vise à instaurer, a-t-il essayé d'expliquer, davantage de justice entre tous les Français. Et puis, Édouard Philippe a ouvert la porte aux discussions en fixant le calendrier de la semaine prochaine, réunion avec les partenaires sociaux lundi, et il mettra lui-même le projet du gouvernement sur la table mercredi, ceci afin, espère-t-il, d'engager le dialogue sur la progression de la mise en œuvre de cette réforme. On évoque depuis hier la possibilité qu'elle s'applique uniquement pour les Français nés après 1973, mais tout ça est discutable, a semblé dire tout à l'heure le Premier ministre. C'est donc un appel au dialogue qu'il a adressé en direction des partenaires sociaux à partir de la semaine prochaine. Ce faisant, Édouard Philippe prend un risque en laissant entendre qu'il est prêt à lâcher du lest, alors qu'on est entré depuis hier dans une logique de confrontation. Et c'est ce que laissait entendre un responsable syndical tout à l'heure, juste après cette intervention. Ça montre qu'au gouvernement, ils sont tétanisés, expliquait ce syndicaliste. Si c'est comme ça que le perçoivent également tous ceux qui ont fait grève hier et qui continuent de faire grève aujourd'hui, ça pourrait être considéré comme un aveu de faiblesse et une incitation à poursuivre la grève. Quoi qu'il en soit, ce sont les Français qui seront les arbitres de l'issue de ce mouvement, selon qu'ils continueront à soutenir la contestation ou qu'ils s'en désolidariseront.
Stéphane Robert. Et au lendemain d'une mobilisation massive avec au moins 800 000 personnes dans les rues de France, les opposants à cette réforme des retraites n'ont pas l'intention de plier. L'intersyndicale CGT, FO, Solidaires, FSU appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestation mardi. Bernadette Groison est la secrétaire générale de la FSU, première fédération chez les enseignants.
Ce qui nous est envoyé depuis hier soir, c'est les gens l'ont pas très bien compris, on va mieux expliquer. Donc aujourd'hui, on redit clairement au gouvernement, nous avons bien compris votre projet, nous ne voulons pas de ce projet de réforme parce que nous savons que c'est un projet qui fera baisser les pensions et qui diminuera les droits des salariés du privé comme du public. Et donc nous voulons pouvoir rediscuter d'une réforme des retraites qui ne soit pas celle-ci. Et ce qu'il faut que le gouvernement entende, c'est que nous sommes, nous aussi, déterminés. C'est pas un mouvement d'humeur de quelques jours, beaucoup de colère qui s'exprime, et puis à la veille des vacances de Noël, tout ça va se terminer. Non, emploi, salaire, précarité, égalité entre les femmes et les hommes, c'est à ces attentes que le gouvernement doit répondre, et c'est ça qu'il faut qu'il mesure.
Et en attendant la nouvelle grève de mardi, la mobilisation se poursuit aujourd'hui, et notamment à la SNCF et à la RATP où le trafic reste très perturbé et le sera toujours ce week-end. Les faits sont d'une extrême gravité selon Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur inquiet au même titre que deux syndicats de police. Des policiers et des CRS, au moins une dizaine, ont reçu des courriers de menaces chez eux à Limoges, Grenoble ou encore Périgueux. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Les enquêteurs n'ont pas encore identifié le ou les auteurs, mais il y aurait des traces ADN sur l'une des enveloppes.
Et des investigations sont en cours. Si ces traces ADN sont confirmées et qu'on les retrouve dans un fichier, on aura alors l'identité de la ou des personnes en quelques jours. En attendant, on ne peut qu'émettre des hypothèses. D'abord sur la signature ACAB, initiale en anglais de All Cops Are Bastards, tous les policiers sont des salauds, une expression plutôt employée par les anarchistes ou l'extrême gauche que l'on retrouve sur les tags et sur les murs, notamment lors de manifestations. Sur l'une de ces lettres tapées à l'ordinateur, on peut lire « Pour chaque citoyen blessé, ce sera un membre de la famille qui subira les mêmes préjudices. » Les destinataires de ces courriers ont tous un point commun, ils sont régisseurs, et à ce titre, leur nom est apparu au journal officiel. C'est sans doute comme cela que le ou les auteurs de ces lettres ont trouvé leur nom et ensuite cherché leur adresse sur Internet. Chez les représentants des forces de l'ordre, on demande des mesures de protection immédiates. David Michaud est secrétaire national CRS de l'UNSA Police.
C'est surtout les épouses qui ont été destinataires, parce que la plupart des collègues IAS étaient fortement engagés, et c'est les épouses qui ont reçu le courrier. Je peux vous dire que dans 2-3 unités, les épouses sont traumatisées, et on a ce matin demandé la mise en application d'une cellule psychologique, avec un soutien pour que les gens puissent parler dans les unités. La hiérarchie est amenée aussi à les rencontrer, les soutenir. Nous, on a demandé que les collègues puissent bénéficier de la protection fonctionnelle, c'est-à-dire que dès lors où la personne se sent menacée, et l'endroit où il est, et reconnu, ils puissent bénéficier d'un déplacement en urgence.
Trois plaintes ont d'ores et déjà été déposées par des membres des forces de l'ordre. D'autres devraient suivre.
Les précisions d'Antoine Marette. Après Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez, François Bayrou est au tribunal. Le président du Modem entendu à son tour depuis ce matin dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif d'assistant d'eurodéputé du parti. Et il pourrait être lui aussi mis en examen. La foule était normale, j'ai ampleur exceptionnelle pour ce nouveau vendredi de manifestation, le dernier avant la présidentielle. Un scrutin toujours massivement rejeté par la rue. À Alger, le reportage de Leïla Berato.
Les manifestants chantent que l'arrêt du vote est un devoir national. Ahmed, 30 ans, manifeste depuis le 22 février et cette semaine, il est là pour dire qu'il refuse d'aller voter.
Je ne veux pas d'élection. En fait, on veut une élection, mais une élection bien faite. C'est pas une élection. Tu sais, les 5 candidats, on les connaît bien avant. Hein. C'est le même pouvoir. Version un peu modifiée, un peu maquillée. Et c'est juste, c'est le même pouvoir qu'il veut reprendre, en fait, ce pouvoir-là.
La foule brandit des cartons rouges sur lesquels il est écrit « Non au vote ». Amel pense que l'élection aura lieu, mais elle tient à la dénoncer quand même.
Comment on veut faire croire au peuple que... on est en train de répondre à ces revendications à travers ces élections, alors que ces élections, ces campagnes électorales sont plus des campagnes d'arrestation de toute personne qui est en train de dire non. Mais le vendredi, les gens vont être dans la rue et moi, je serai dans la rue.
Dans le cortège, il y avait aussi d'immenses portraits imprimés des manifestants incarcérés depuis les mois de juin et septembre. La plupart n'a toujours pas été jugée.
France Culture à Alger avec Leïla Berato. En Iran, la contestation dure depuis un mois maintenant et la répression est forte, très forte. Des milliers de personnes ont été arrêtées, plus de 200 ont été tuées. Et l'alerte vient du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU à Genève, Jérémy Lanche.
L'un des incidents les plus graves aurait eu lieu dans la province du Khouzistan. C'est à l'ouest du pays. Des forces de sécurité auraient tiré à l'arme lourde contre des manifestants en fuite et d'autres qui se cachaient. Bilan, au moins 23 morts, peut-être beaucoup plus. Rupert Colville est le porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme.
Il y a de nombreux signes de violation du pacte international relatif aux droits civils et politiques que l'Iran a signé et doit donc respecter. Les vidéos que nous avons reçues montrent un usage extrême de la violence de la part de membres des forces de sécurité. On en voit qui tirent sur les manifestants depuis le toit d'un bâtiment officiel dans une ville. Dans une autre, ils tirent depuis un hélicoptère. Nous avons aussi reçu des vidéos montrant les forces de sécurité tirer sur des manifestants de dos alors qu'ils s'enfuyaient et viser d'autres en plein visage ou dans des organes vitaux. Dit autrement, gens. Ils tirent pour tuer.
Depuis la mi-novembre, 7000 personnes auraient été arrêtées par les forces de sécurité dans la quasi-totalité des provinces du pays. La haut-commissaire Michelle Bachelet se dit très inquiète de leurs conditions de détention. D'autant plus, dit l'ex-présidente chilienne, qu'un certain nombre de manifestants pourraient être passibles de la peine de mort. Michelle Bachelet appelle Téhéran à libérer toutes les personnes arrêtées dans le cadre du mouvement de contestation et à poursuivre les personnes responsables des violences contre les manifestants.
Jérémy Lanche à Genève. Je ressens une honte profonde. Les mots sont puissants, la photo l'est aussi. La chancelière allemande Angela Merkel était à Auschwitz puis à Birkenau tout à l'heure. Une première pour un chef de gouvernement allemand depuis 25 ans, Ludovic Piétenu.
Les mains jointes, la tête inclinée, les yeux fermés, Angela Merkel se recueille devant le mur des fusillés au camp d'Auschwitz.
Quel mot pourrait rendre justice au chagrin que cet endroit a causé ?
La mine et le ton très grave, dans ce discours d'une quinzaine de minutes, la chancelière allemande endosse au nom de son pays la responsabilité pleine et entière de la Shoah. Auschwitz-Birkenau était un camp allemand d'extermination dirigé par des Allemands, dit-elle. Décrivant l'Holocauste comme inséparable de l'identité allemande, elle s'inquiète du contexte actuel, ce nombre record d'actes antisémites en Allemagne.
Aujourd'hui, face à un racisme alarmant et une intolérance croissante, face à la haine, nous devons défendre nos valeurs, nous lever, parler et nous opposer. Nous devons dire notre désaccord contre cette haine. Ce qui s'est passé ici, on ne doit jamais l'oublier.
Défendre la dignité humaine, la liberté et l'état de droit, c'est ce qu'Angela Merkel, chancelière depuis bientôt 15 ans, s'applique à elle-même avec constance. Aujourd'hui, dans ce lieu très symbolique, son discours ressemblait plutôt à un appel urgent à tous ceux qui veulent défendre la démocratie.
Ludovic Piétenu, correspondant de France Culture en Allemagne. Ils sont attendus par milliers dans les rues de Madrid, Greta Thunberg en tête. Une grande marche pour le climat doit débuter dans la capitale espagnole, Madrid, où se tient la COP25. Et cette année, tous les regards y semblent tourner vers l'Europe. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Véronique Reberotte.
Lundi dernier, cérémonie d'ouverture de la COP25. Les premiers mots du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, sont pour les Européens venus en force à Madrid.
À un moment marqué par le silence de certains, l'Europe a beaucoup à dire dans ce combat.
Même appel du pied quelques minutes plus tard du secrétaire général des Nations Unies. C'est cette fois devant la presse internationale, Antonio Guterres.
L'Europe a un rôle absolument essentiel. Et je crois que l'Europe doit être un pilier fondamental d'une négociation globale pour permettre la neutralité carbone. Je vois que la plupart des pays de l'Union européenne ont déjà engagé leur gouvernement et leur société à la neutralité carbone. Il y a encore quelques pays qui ne l'ont pas fait. J'espère que l'Union européenne, dans son ensemble, puisse le faire le plus rapidement possible. Et j'espère que l'Europe soit un pilier fondamental de la négociation globale. Et si l'Europe réussit à cet objectif de neutralité carbone pour tous les pays européens, ça donnera à l'Europe une autorité morale très importante pour permettre que cette négociation globale puisse être un succès.
L'Europe devrait adopter la semaine prochaine un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Ce serait le premier continent à le décréter. Les 28 doivent examiner cette proposition lors d'un sommet les 12 et 13 décembre prochains, dernier jour de cette COP. L'Allemande, Ursula von der Leyen, la toute nouvelle présidente de la Commission européenne, a bon espoir de convaincre trois pays sur les 28 encore réticents, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, grands producteurs de charbon. Elle promet de les aider financièrement. Ursula von der Leyen est venue défendre ici son Green Deal pour sa première sortie internationale. Elle promet de placer l'Europe à la pointe de la transition écologique.
Le pacte vert européen est la nouvelle stratégie de croissance européenne. Il réduira les émissions et créera des emplois tout en améliorant notre qualité de vie. Pour cela, nous avons besoin d'investir, des investissements massifs dans la recherche, l'innovation et dans les technologies vertes. Pour atteindre ce but, nous allons présenter un plan d'investissement européen de développement durable, 1 milliards d'euros d'investissement dans les 10 ans qui viennent.
Mais rien n'est encore voté, ce ne sont pour l'instant que des promesses de campagne. Le signal envoyé est pourtant capital dans un processus diplomatique climatique en mal d'action. Lola Vallejo est directrice du programme climat à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales.
Les élections ont donné un mandat fort à l'Europe pour avancer sur les questions climatiques. Après, il doit évidemment se traduire par des engagements plus concrets, non seulement ancrer ces engagements dans la loi. Donc on attend beaucoup du Conseil européen, de la fin de la COP, qui devrait normalement consacrer cette ambition climatique et que tous les pays européens finissent par s'engager derrière cette ambition climatique après plusieurs échecs.
À Madrid, elle peut entraîner, je sais pas, la Chine. On dit que la Chine serait, du coup, si l'Europe fait un effort, en ferait également.
La relation entre l'Europe et la Chine, elle est vraiment majeure. Pour l'instant, il y a peu d'attentes sur le fait que les pays du G20 posent de nouveaux engagements concrets sur la table à cette COP-ci. Néanmoins, l'Europe a un rôle très important à jouer dans la diplomatie de l'ambition pour encourager de grands pays, et en premier lieu la Chine. Et c'est vraiment dans ce sens-là que la nouvelle commission parle de son engagement de devenir le premier continent neutre en carbone. Cette ambition, elle est importante pour essayer de montrer à la Chine ce qui est attendu d'elle l'an prochain.
Pour les ONG, la seule victoire européenne remportée pour l'instant sur le climat date du mois dernier, quand la Banque européenne d'investissement s'est engagée en 2021 à ne plus financer à grands coups de milliards d'euros des projets liés aux énergies fossiles. Du côté des petits pays, ceux victimes du réchauffement climatique, l'engagement européen est rassurant, même si c'est la moindre des choses. Mamadou Onadia fait partie de la délégation officielle du Burkina Faso.
Avec le retrait des États-Unis, vous savez, le Canada risque de suivre. Le Japon aussi risque de suivre, et ça risque d'être compliqué pour la communauté internationale. On l'a vu depuis Kyoto, l'Union européenne vraiment s'est positionnée comme étant vraiment le groupe à mesure vraiment de relever ce défi-là, d'assurer le leadership. L'Europe a un très grand rôle à jouer pour rassurer la communauté internationale que les pays développés, reconnaissant qu'ils sont les principaux responsables, feront quelque chose. Parce que quand on regarde avec le niveau de développement que vous avez, les émissions sont également élevées. C'est même obligé qu'ils s'engagent. Moi, j'ai confiance. Et je sais vraiment que le nouveau bureau, en tout cas, prendra action. Jusque-là, cette action tarde à venir. Donc nous comptons sur vous. Nous comptons sur l'Europe.
De championne du climat, plutôt par défaut à Madrid, l'Europe devra rapidement montrer qu'elle peut passer à l'action.
Véronique Reberotte, envoyée spéciale de France Culture à Madrid pour la COP25. Le ciel s'annonce assez gris. Demain, près de la Méditerranée, on aura du soleil, mais ailleurs, les nuages l'emportent largement, parfois accompagnés de quelques pluies. Au réveil, le thermomètre aura bien du mal à dépasser les 10 degrés, sauf encore une fois en Provence-Alpes-Côte d'Azur, du côté de Bordeaux aussi, ou en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun. Il est un petit peu plus court que d'habitude en raison du mouvement de grève à Radio France. Dans quelques minutes, vous retrouvez le temps du débat avec Emmanuel Laurentin.